Germann et Martin Guibernier.
Bonjour tout le monde et bienvenue à l'écoute des investisseurs pour ce 10 juin 2026. Bonjour Martin.
Bonjour Sarah, bonjour tout le monde.
Donc, nous voilà de retour après 2 semaines de pause. Martin, avant de recevoir notre invité aujourd'hui, j'aimerais qu'on prenne quelques minutes pour faire le point sur les marchés. Il y a beaucoup de choses qui sont arrivées pendant notre pause. Qu'est-ce que tu surveilles de près en ce moment?
Donc, notre dernier balado, c'était le 19 mai, donc ça fait quand même presque 3 semaines maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Entre autres, les marchés ont fait des nouveaux sommets au tout début du mois de juin. Donc, durant le mois de mai, là, le mois de mai complet, le TSX a gagné 2,5%, le S&P 500 5,2%, le Nasdaq 8,4%. Et l'indice MSCI Europe, Asie, Australie, 4,2. Il y a un vieil adage en investissement qui dit « sell in May, go away », vendez tout en mai puis allez en vacances. C'est pas un adage qui s'est avéré très, très payant cette année si les gens ont quitté le marché en disant que mai, c'est jamais un bon mois à la bourse. Ils ont quand même manqué une excellente performance. Ceci dit, c'est juin là, qui pose peut-être un petit peu plus d'inquiétude, une correction assez prononcée du côté des technologies. Ce qu'on dit, c'est les attentes sont très, très élevées envers les titres d'intelligence artificielle en particulier. Donc, dès qu'une entreprise n'atteint pas les attentes très élevées, la sanction, elle est sévère et immédiate. Donc, on a vu des titres comme Broadcom, par exemple, qui est un des géants en technologie, avoir des résultats financiers, somme toute, c'est très bon. Mais inférieur aux attentes, le titre s'est fait dégommer de 20 %. Ben 20 %, c'est comme 400 milliards de dollars, là, t'sais. Donc c'est quand même assez significatif. C'est la même chose du côté, par exemple, de Micron, de Nvidia. Donc plusieurs titres dans l'IA qui se sont fait, qui ont beaucoup corrigé là, dernièrement. Est-ce que c'est étranger au fait que SpaceX va rentrer en bourse en principe cette semaine? Peut-être, peut-être pas. Est-ce que c'est de l'argent qui sort de ces titres-là en but de rentrer dans SpaceX? On verra comment ça va évoluer, cette lancée en bourse-là. C'est très intéressant à suivre parce que les opinions sont vraiment aux extrêmes. Beaucoup pensent que ça va flopper, beaucoup pensent que ça va tripler le jour 1. Puis moi, ma prédiction, c'est qu'un des deux scénarios va arriver, mais je sais pas lequel.
C'est ça.
Ça ne me surprendra pas du tout si le titre double le jour 1 ou qu'il perd 50%. Je ne serais pas étonné d'un côté comme de l'autre. Du côté économique, l'emploi va très, très bien. Particulièrement au Canada, on a créé 88 000 emplois le mois dernier, 154 000 emplois à temps plein et quelques pertes à temps partiel. Donc, depuis l'année passée, la crainte de récession, l'économie ralentit. Techniquement, le Canada est en récession. Là, on a eu 2 trimestres consécutifs avec une croissance négative, mais très, très faible. C'était 0,1% négatif au dernier trimestre. Donc, tu sais, pas rien pour s'inquiéter. Et dans quel secteur économique on retrouve les emplois au Canada? Dans la construction et dans les transports principalement et l'hospitalité, les serveurs, les restaurants, les hôtels et tout ça. Mais construction, transport, ce sont quand même des secteurs économiques importants, c'est des barèmes. Aux États-Unis, aussi une très bonne création d'emplois, mais dans l'hospitalité, les emplois gouvernementaux et dans la santé. Si on revient un petit peu au marché boursier en attendant, ben comme on mentionnait, les attentes sont très élevées. Donc, les ratios court-bénéfice du S&P 500, on dit, bon, c'est un petit peu étiré. On est à 21,7 fois les bénéfices. Par contre, quand on vient analyser plus en profondeur là, l'indice, il y a 500 compagnies dans l'indice, là, donc elles ne sont pas tous surévaluées. Il y en a 285 qui ont un ratio en bas de 20. Il y en a 185 qui sont même en bas de 15 fois les bénéfices. Donc, c'est pas juste de dire, bon, j'achète l'indice, il est surévalué. Mais en fait, il y a 6 entreprises là, qui comptent pour plus de 70 % de la croissance des bénéfices de l'indice. Donc, c'est très, très concentré, la performance du marché présentement. On parle de Micron, Nvidia, Broadcom, SanDisk, donc tout dans des titres liés à l'intelligence artificielle, mais aussi ExxonMobil et Chevron, 2 titres d'énergie de pétrole. Évidemment, ce n'est pas étranger au conflit qu'on voit au Moyen-Orient. Ben, donc, ça fait quand même le tour là, de ce qui se passe là, ces temps-ci sur les marchés.
Ben, merci beaucoup, Martin. On avait beaucoup à couvrir qu'on n'était pas là. Pour poursuivre la discussion aujourd'hui, on aborde un sujet qu'on a déjà abordé d'une autre façon, mais qui est à la fois financier, fiscal, social et très, très humain, les dons planifiés. On a la chance aujourd'hui d'accueillir notre collègue Caroline Marion, qu'on a déjà accueillie, notaire, fiscaliste, planificatrice financière, conseillère en stratégie d'affaires avec gestion de patrimoine Desjardins. Bonjour Caroline et merci beaucoup d'être avec nous ce matin.
Bonjour Sarah, bonjour Martin, bonjour tout le monde. C'est vraiment un plaisir. Merci pour l'invitation.
Pour commencer, Caroline, qu'est-ce qu'un don planifié?
C'est une belle question puis je l'aime parce qu'on a souvent l'impression que c'est un sujet super complexe à faveur hautement fiscale. Mais un don planifié, c'est simplement un don qu'on a pris le temps de planifier, de réfléchir afin de l'optimiser son impact. Que ce soit tant du point de vue fiscal que pour le donateur. À titre d'exemple, un don testamentaire, juste le fait de prévoir un don par testament, ben c'est un don planifié.
Ben c'est intéressant. Puis, tu sais, parlons justement de l'aspect fiscal. C'est quoi l'impact du don planifié au niveau des impôts?
Écoute, Martin, le don planifié, c'est un don à un organisme de bienfaisance enregistré. Ça donne au Canada droit pour les particuliers à un crédit d'impôt non remboursable. Pour une société par action qui donne, c'est plutôt une déduction dans le calcul de son revenu imposable comme une dépense. Le crédit pour don est, si on peut le dire ainsi, un super crédit parce que le taux applicable au crédit, c'est le taux de base pour les premiers 200 $. Donc, on va parler de 14 % au fédéral, 20 % au Québec. Avec l'abattement, ça fait un taux combiné de 31 %. C'est à ce taux-là que nos premiers revenus sont taxables après les crédits personnels de base, dans le fond. Fait que ça, c'est pour le premier 200 $ de don. Mais par la suite, le crédit il est bonifié pour équivaloir au taux du dernier palier d'imposition applicable à nos revenus. Donc, si on a des revenus qui sont taxables à 53,31 %, qui est le taux marginal maximum au Québec, ben à ce moment-là, notre taux du crédit sera de 53,31 %, mais il y a aussi un minimum à ça. Donc, même si moi, je suis taxé, par exemple, à 37 %, ben le crédit va être d'au moins 48,22 % pour ce qui est de l'excédent du 200 $ qu'on donne dans une année. Fait que ce que ça veut dire, c'est que j'efface encore plus d'impôts avec mon crédit et que je pourrais l'utiliser aussi, ce crédit-là, pendant les 4 années qui suivent si jamais mes revenus ne sont pas suffisants dans l'année du don pour pouvoir pleinement profiter du crédit. Contre, évidemment, comme on a dit, c'est un crédit d'impôt non remboursable. Donc, si je n'ai pas d'impôt à payer, le crédit n'étant pas remboursable, il ne me sert pas à grand-chose. J'en profite toutefois pour rappeler aux gens qui sont salariés, qui ont généralement de l'impôt à payer, même s'ils ne font pas de chèque. C'est un peu contre-intuitif, mais dans le fond, les gens qui sont salariés, leur impôt il est retenu à la source sur leur salaire. Ce qui fait que ces impôts-là, qui ont été perçus, bien, quand on applique le crédit pour don, ça nous fait un remboursement. Et à ce moment-là, on profite du crédit de cette façon-là. Mais il faut comprendre que ce n'est pas un remboursement parce que c'est un crédit remboursable. C'est un remboursement parce que j'ai payé de l'impôt d'avance. Une fois appliqué le crédit, ben, on me redonne cet impôt-là que j'ai payé d'avance.
Ben, c'est vraiment intéressant, Caroline, parce qu'on voit qu'on peut avoir un impact concret et aussi se faire du bien personnellement, puis ça s'inclut très bien dans une planification globale. Concrètement, puis ça, j'adore cette question-là parce qu'il y a tellement de façons de le faire. Comment est-ce qu'on peut mettre en place un don planifié?
Ben, excellente question à nouveau. Dans le fond, il existe plusieurs façons d'atteindre cet objectif-là. Puis ça dépend de chacun. Ça dépend du type d'organisme qu'on veut avantager. Ça va dépendre du montant du don qu'on est prêt à faire. On le disait tantôt, les façons les plus courantes, le don testamentaire, c'est vraiment un don planifié qui est précieux pour les organismes, comme et pour nous, ben, ça fait moins mal un peu, d'une certaine façon, on a moins l'impression de se déposséder de biens. Fait que le fait d'inclure un don dans son testament, c'est super simple, c'est très flexible. On peut évidemment modifier notre testament si jamais on change d'idée quant au montant ou quant à la répartition entre différents organismes. Donc, c'est le don planifié le plus courant. Ensuite, on a aussi, puis peut-être que vos clients en font de temps en temps, oui, le don de titre coté en bourse. Ouais. Donc, c'est vraiment très efficace fiscalement, ce type de don-là. Pourquoi? Parce qu'essentiellement, non seulement j'ai mon crédit d'impôt pour don, mais le gain en capital que j'aurais de réaliser sur mon titre coté en bourse, bien, il sera inclus à zéro dans ma déclaration d'impôt. Donc, dans le fond, mon crédit pour don va profiter à d'autres choses que juste effacer l'impôt sur ma plus-value, sur mon titre. Fait que c'est vraiment intéressant. Pour les organismes, le peu qu'ils ont à faire dans ce cas-là, c'est d'avoir un compte de courtage pour pouvoir recevoir le titre. Mais une fois que c'est fait, après ça, ils peuvent disposer du titre. Ils ne sont pas obligés de le conserver. Et ça donne vraiment un avantage considérable. Fait que si on choisit entre donner du cash ou donner un titre pour les particuliers, ça vaut vraiment la peine si on a des titres fort plus-value de donner un titre. Il y a aussi, évidemment, les dons via assurance-vie. Donc, ça, de cette façon de donner-là, ce qu'on va se dire, c'est que, évidemment, si j'en ai besoin d'assurance-vie, ça ne sera pas le choix que je vais faire. Par contre, avant d'annuler une police que j'ai déjà, pour laquelle j'ai déjà fait des paiements pendant des années, puis que je me rends compte que j'ai peut-être plus autant besoin d'assurance parce que soit j'ai plus de personnes à charge, ou encore, j'ai réussi à m'auto-assurer à force d'accumuler des sommes moi-même, bien, je peux envisager, dans le fond, de la maintenir, cette police-là, mais de la donner. Donc, il y a deux façons de donner de l'assurance-vie. Soit je donne par la désignation d'un organisme comme bénéficiaire, donc il aura droit au contrat à mon décès seulement. Je peux aussi transférer une police existante. Donc, je pourrais donner la police, l'organisme deviendrait le preneur, le propriétaire du contrat d'assurance. Le propriétaire doit payer les primes. Fait que soit ma police est déjà pleinement capitalisée puis il n'y en a plus à payer, fait que ça va bien. Ou encore, je vais continuer à payer les primes en faveur de l'organisme. Donc, j'aurai un montant de don au moment du transfert de la police si elle a une valeur de rachat. Et j'aurai un nouveau montant de dons à chaque année que je paierai les primes pour l'organisme de charité. Fait que c'est deux façons de faire qui peuvent être intéressantes si j'en ai plus besoin personnellement pour ma planification. Et finalement, et non le moindre, il y a le don par l'entremise d'un fonds philanthropique qui peut être faite auprès de la Fondation des Jardins. Pourquoi c'est intéressant, le fonds philanthropique? Bien, dans le fond, c'est que ça permet de structurer ses dons dans le temps. C'est un véhicule qui est extrêmement flexible, en guillemets. Ce qu'il faut comprendre, à la base, c'est que quand on crée le fonds philanthropique, le don, on le fait à la Fondation des Jardins. Donc, on va avoir tout de suite notre reçu pour don pour le montant qu'on a voulu donner à ce moment-là. Et après ça, avec la Fondation des Jardins, on a un contrat par lequel la Fondation va mettre de côté ces sommes-là. Elle va les attribuer au nom de notre fonds, nom qu'on va choisir nous-mêmes. Et à partir de ce fonds-là, à chaque année, on va y avoir donné d'avance des instructions, mais on pourra les modifier en cours de route, des instructions sur comment est-ce qu'on va utiliser cet argent-là qui est à l'intérieur du fonds. Ultimement, ça ne peut pas aller à d'autres choses que des organismes de bienfaisance enregistrés. Mais essentiellement, à chaque année, je pourrais diriger le montant d'un don. Donc, au lieu de donner ici et là un 5 000 par année ou un 10 000 par année, ce que je peux faire, c'est que je peux dire, je vais mettre tout de suite de côté un montant, mettons, on va y aller rapidement avec le coût d'entrée pour les fonds philanthropiques de Desjardins. C'est à peine 25 000 $. Donc, très accessible pour beaucoup de gens. Mais essentiellement, mettons qu'au lieu de faire 10 000 par année pendant 2-3 ans, je décide d'un coup de donner un 25 000 dans mon fonds des jardins. J'ai mon crédit l'année où j'ai fait le don. Le 25 000 est placé par la Fondation des jardins à l'intérieur du fonds philanthropique. Puis, la Fondation des jardins va me dire à chaque année, voici le montant qui est disponible pour distribuer à des organismes de ton choix. Donc, je peux avoir eu l'idée de le faire à un seul organisme, mais je peux aussi me dire, ben, peut-être que j'aimerais ça l'utiliser pour différents organismes de façon à un peu entraider différentes causes qui me tiennent à cœur. À ce moment-là, ça peut être fait comme ça. Puis, c'est vraiment au Pas d'entretien, c'est peut-être pas le bon mot, mais pas beaucoup de tâches administratives qui est rattachée à ça. C'est pas problématique parce que même si dans une année, ça me tente pas de me casser la tête, bien, j'ai déjà mon contrat qui dit au pire, Fondation des Jardins, voici qu'est-ce que tu dois faire avec le montant que je dois distribuer à chaque année. Et ça, cette obligation-là nous provient de la loi de l'impôt. Là. On est obligé de distribuer un minimum qu'on appelle le contingent des versements dans notre fonds à chaque année. Fait une fois que ce minimum-là a été versé, bien, c'est vraiment l'entente que j'ai avec Fondation des Jardins qui va déterminer si on donne un peu plus ou si on conserve le capital à long terme puis qu'on donne juste, par exemple, le rendement sur les fonds du moment qu'on donne au moins l'équivalent de notre contingent des versements. Donc, ce qui est vraiment génial avec un fonds philanthropique comme celui-là, c'est la multiplicité des choses que je peux faire aussi avec par la suite. Premièrement, je peux impliquer ma famille dans l'idée philanthropique. Donc, je pourrais, par exemple, avoir des jeunes enfants puis me dire, ben moi, je veux déjà leur montrer qu'on peut aider grâce à ça. Donc, une fois par année, quand on a notre décision à prendre quant aux organismes qu'on va avantager, bien, je pourrais, par exemple, demander à mes enfants, qu'est-ce que vous en pensez? Y a-t-il une cause qui vous tient à cœur? Est-ce que vous aimeriez qu'on alloue un montant? Puis moi, je vous dis que vous avez, mettons, 500 $ à distribuer cette année. Fait que comment vous voulez le distribuer? Fait que déjà, on implante l'idée de cette générosité-là dans notre famille, puis ça peut être un legs extraordinaire que justement d'y croire puis de savoir qu'on peut avoir un impact. C'est aussi un fonds qui demande très peu, je disais tantôt, d'entretien, c'est-à-dire que je peux aussi changer mes volontés à travers le temps, mais je n'ai pas besoin d'aller modifier mon testament pour autant. Donc, je pourrais juste aller modifier les modalités de mon fonds dans mon contrat avec la Fondation des Jardins. Ça simplifie la rédaction de mon testament parce que je fais juste léguer à mon fonds philanthropique au sein de la Fondation des Jardins. À chaque fois qu'on remet un don, le nom du fonds apparaît pour l'organisme qui le reçoit. Donc, la reconnaissance qu'on a d'habitude quand on fait un don important, on va l'avoir quand même. Et finalement, peut-être étonnamment, c'est très aidant pour les petits organismes, ce genre de choses-là. Parce qu'un petit organisme a aussi le problème d'un contingent de versement. Fait que si du jour au lendemain, le petit organisme reçoit un gros don testamentaire, mettons 200 000 $, bien ce montant-là, il va devoir en dépenser 5 % dans l'année qui suit parce qu'il y a un contingent des versements. Mais s'il n'y a jamais eu des sommes aussi astronomiques, ça peut qu'il y ait de la misère à trouver pourquoi il va pouvoir le dépenser. Alors que si on y avait plutôt mis en place un fonds philanthropique puis qu'on avait prévu qu'il allait avoir des distributions à cet organisme-là de façon régulière à chaque année, bien ça, c'est de la prévisibilité pour l'organisme. Donc, il sait que grâce à ce fonds-là, il va pouvoir recevoir un 2 000, un 5 000 par année. Puis là, il va pouvoir prévoir d'avance des dépenses puis la façon de l'utiliser de façon optimale pour la cause. Fait que c'est vraiment quelque chose qui peut être avantageux même pour l'organisme qu'on souhaite avantager et parfois même beaucoup moins désavantageux pour l'organisme. On peut aussi donner encore à ce fonds-là. Donc, ce n'est pas parce qu'on l'a créé une fois qu'on ne peut pas faire des dons récurrents de notre vivant. Notre compagnie peut donner à ce fonds-là. On peut même inviter des gens de notre entourage à faire des dons à l'intérieur du fonds. Il y a une plateforme web qui est disponible, la Fondation Desjardins. Un don minimum 20 $ va donner droit à un reçu pour don. Donc, on pourrait même avoir des enfants qui décident éventuellement de mettre des montants supplémentaires à la hauteur de leur capacité dans le fonds Desjardins qu'on aura créé.
Puis j'imagine que ça s'inscrit dans une réflexion peut-être plus large sur la succession.
Certainement, parce que comme on disait, là, dans le fond, cette idée-là fait que je peux facilement nommer mon fonds philanthropique comme un bénéficiaire de mon testament pour des montants plus ou moins substantiels, c'est mon choix. Les gens qui m'entourent peuvent décider de continuer de faire des legs. Je pourrais même donner le nom de la famille à mon fonds de façon à ce que ça soit vraiment quelque chose de familial, ce qu'on a créé, puis qu'il y ait une continuité. Je peux, auprès de la Fondation Desjardins, désigner un successeur qui va prendre des décisions à ma place une fois que moi, je ne serai plus là. Encore là, c'est un beau transfert de patrimoine, mais aussi de valeur, de façon de faire, de reconnaissance aussi du fait que j'ai été privilégiée puis j'ai eu la chance d'en avoir suffisamment pour pouvoir en redonner. Donc, mes enfants peuvent poursuivre cette vocation-là, mais pas juste mes enfants, ça peut être toute forme de successeur. Là. Ça pourrait être un employé clé là, à qui je vais transférer l'entreprise, mais à qui je veux aussi transférer cette valeur-là.
C'est vraiment de laisser, de réfléchir à l'impact qu'on souhaite laisser à long terme.
Bien, merci beaucoup, Caroline. Puis, tu sais, j'avais fait une formation à l'interne sur la Fondation Desjardins. J'ai trouvé que c'était brillant comme idée, puis que ça pouvait aider plusieurs de nos clients. Puis, j'ai fait appel à toi, puis je pense que tu as une passion pour ça, puis ça se transmet vraiment par notre balado. Donc, merci beaucoup. Donc, ça montre encore une fois l'importance d'avoir une planification globale. C'est ça que je pense. Merci à vous tous d'avoir écouté cette semaine. Si vous avez des questions ou vous souhaitez discuter de votre situation personnelle ou de legs dons planifiés, faites-nous signe. Laurie, Michel, Mathieu, Martin et moi et Caroline, on peut y faire appel à elle, et sont toujours là pour vous accompagner. À très bientôt pour un prochain épisode de À l'écoute des investisseurs.